Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi jusqu'à la fin juillet, nous recevons un acteur ou un spécialiste de l'économie qui nous aidera à comprendre ce qui s'est passé d'incroyable cette année et surtout ce qui peut se passer demain. Chaque samedi, notre invité répondra à mes questions, puis dans un second temps à celles d'étudiants présents dans le studio aujourd'hui, des étudiants de Panthéon-Sorbonne, de Sciences Po, de Grenoble École de Management et un jeune actif passé par l'École des Mines. Et ce soir, l'écho de l'été, c'est elle, Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, l'organisation qui conseille et analyse le paysage économique mondial. Laurence Boone qui a alterné au cours de sa carrière le secteur privé, notamment financier, et le secteur public. Elle a ainsi travaillé aux côtés de François Hollande pendant 2 ans à l'Élysée. Bonsoir Laurence Boone.
Bonsoir Dominique Seux.
France Inter. L'écho de l'été. Dominique Seux.
Jamais dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation, ni pendant les précédentes épidémies. Jamais. Jamais le pays n'avait été confiné comme il l'est aujourd'hui.
J'ai envie, Laurence Boone, de commencer en vous posant une question, mais vraiment toute simple, que beaucoup d'auditeurs se posent sans doute. Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup d'arrêter le monde entier, et la France notamment, pour lutter contre le Covid-19 quand on découvre, et on vient d'entendre Édouard Philippe, quand on découvre le cataclysme économique qui a suivi ?
Écoutez, oui, ça valait la peine en fait de prendre le temps de préparer nos systèmes de santé pour faire face au virus, parce que comme vous vous souvenez, on était probablement tous dans les pays de l'OCDE, la plupart des pays avancés, pas prêts à faire face à une telle pandémie et d'une telle ampleur. Et quand on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé dans l'ensemble des pays, il y a un petit groupe, notamment d'économies asiatiques, qui ont vécu les épidémies du SARS, du MERS, qui étaient plus prêts et qui ont peut-être moins confiné. Mais dans l'ensemble des autres, on a eu besoin de construire cette capacité. Et à la vérité, on peut comparer 2 pays, par exemple le Danemark et la Suède. Le Danemark qui a très confiné, la Suède qui n'a pas beaucoup confiné. Et quand on regarde ce que ça a fait sur la consommation, Suède, -24%, Danemark, -29%, l'écart est très faible.
Donc il n'y a pas de modèle, sauf en Asie peut-être. Mais vous vous souvenez de la phrase de Donald Trump qui nous avait dit « Attention, le remède sera pire que le mal ». Et donc, au total, finalement, il fallait le faire et on n'avait pas le choix. Mais est-ce qu'il faudrait le faire une seconde fois si ça revenait ? Est-ce qu'un reconfinement est possible ? Ou économiquement, franchement, là, on est allé au plus bas du plus bas, c'est pas possible.
En fait, il y a 2 questions dans votre question, je vous reconnais bien là. La première, c'est est-ce qu'un reconfinement est possible ? On a beaucoup appris du virus. Je vous rappelle qu'au début, quand il est arrivé, on ne le connaissait pas du tout. On a appris, on a gonflé nos systèmes de santé. Mmh. Beaucoup de pays ont multiplié par 2 leurs lits disponibles avec ventilateurs. On commence à savoir un tout petit peu le mieux traiter. Même si on devait confiner parce que le virus revient, on confinerait sans doute beaucoup moins et de façon beaucoup plus ciblée.
On ferait ça plus intelligemment, pour dire les choses crûment.
On ferait ça avec plus de connaissances.
Quand on parle de la situation économique, alors c'est vrai que les chiffres, honnêtement, je pense qu'ils passent au-dessus de la tête de la plupart d'entre nous. On parle d'une récession en France de 11 à 14%. On a du mal à imaginer. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui est en train de se passer, on l'a un peu sous les yeux, mais dans les mois qui viennent, dans un pays comme la France ?
Alors, comme le suggère votre question, il y a effectivement 2 phases dans la gestion de cette crise. La première phase qui a été celle du confinement, où les acteurs de politique économique, les gouvernements, les banques centrales ont agi de façon spectaculaire. Elles ont beaucoup appris de la crise de 2008-2009 et donc elles ont mis en place un bouclier autour des personnes et des entreprises en même temps qu'elles musclaient leur système de santé. Et là, on rentre dans la deuxième phase qui en réalité est un peu plus compliquée parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui vont exploser de croissance et c'est très bien, comme le soin aux personnes, comme l'e-commerce, comme d'autres. Et puis, il y en a d'autres comme le tourisme, le voyage, l'aéronautique qui vont rester durablement abîmés. Et donc ce qu'il faut faire, c'est à la fois soutenir les personnes, mais leur permettre aussi, et pareil pour les entreprises, de bouger d'un secteur en berne à un secteur qui va se mettre à vraiment croître et de façon plus forte.
Mais ça veut dire que à l'automne, on peut s'attendre, dans les pays développés et notamment en France, à beaucoup de destruction d'emplois. Vous avez fait des estimations, j'imagine, à l'OCDE. D'ici la fin de l'année, on va avoir combien de destructions d'emplois?
Oui, c'est vrai. En fait, cette période, elle est plus difficile parce qu'au fur et à mesure, on retire le soutien à l'activité économique. L'économie doit marcher sur ses pieds toute seule, sans trop de béquilles. En fait, le paradoxe, c'est que là, on arrive dans l'été, on voit les chiffres sur la reprise économique. Alors, on réouvre des secteurs. Mécaniquement, ça fait des taux de croissance incroyables. On peut tout cette euphorique sur le fait que ça repart. Mais en fait, ça va repartir qu'à 90 ou 95%. Et certainement, il y a des entreprises qui ne vont pas survivre. Et le chômage va commencer à monter à l'automne. Et c'est vrai que la rentrée risque d'être très difficile. D'autant plus que les emplois qui sont touchés sont dans des secteurs comme l'art, le tourisme, le loisir, où on a le plus de personnes et moins qualifiées, le plus de contrats précaires et le plus de jeunes.
Oui, donc en fait, ça va être quand même compliqué. Il ne faut pas se fier aux indicateurs plutôt positifs qu'on a ces derniers jours.
C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par l'euphorie de l'été et de ces chiffres de croissance spectaculaires, mais au contraire, profiter de cette période pour se préparer à ce qui risque d'être une rentrée plus difficile.
Est-ce qu'il n'y a pas une partie des Occidentaux, enfin dans tous les pays, qui peuvent se dire, notamment les Français, le confinement, c'était le bon temps, finalement? On était un peu sous cloche. Évidemment, c'est caricatural, c'est un peu une plaisanterie, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu l'idée que nous avons tous vécu 8 semaines un peu protégées, pour ceux qui ont eu cette chance-là, bien sûr. Mais la sortie, il fait froid dehors.
Paradoxalement, c'est vrai que comme on a beaucoup appris des crises précédentes, le confinement, tous les gouvernements ont tiré très vite, très fort. Toutes les personnes qui avaient un contrat standard, donc ça en laisse quand même quelques-unes de côté, qu'il faut pas négliger, ont vu leur salaire arriver, juste elles étaient chez elles, et pour certaines, elles ont beaucoup télétravaillé, ou d'autres étaient quand même au front, hein, dans les supermarchés. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de cocon de politique économique qu'on a appris des crises précédentes. Or, maintenant, on saute dans l'inconnu. On est notoirement pas très bon sur les périodes de transition.
Pour combien de temps on va combien de temps avant de revenir à la normale? Alors, on ne sait pas très bien s'il faut écrire la normale en deux mots ou en un seul mot. Mais est-ce que, quoi, fin 2021, 2022?
La vérité, c'est que tant qu'on n'a pas de traitement et de vaccin, on va être obligé de vivre avec de la distanciation physique, des règles sanitaires et d'hygiène dans les entreprises ou les transports publics qui sont compliqués. Et on aura perdu, en fait, forcément du revenu d'ici à fin 2021. On sera moins bien fin 2021 que ce qu'on était en 2019.
Est-ce que vous n'avez pas quand même dans votre bagage une petite bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui rassurait avant l'été un petit peu les uns et les autres? Peut-être qu'il y en a une qui est de se dire que les gouvernements d'une manière générale ont plutôt bien réagi à cette affaire-là, ce qui n'avait pas été le cas en 2008-2009.
Non, vous avez raison, je pense que les gouvernements vraiment, ils ont appuyé sur tous les leviers. Et je trouve que cette rapidité d'action est très encourageante. Et puis, il y a autre chose qui diffère un peu par rapport à la crise de 2008-2009, c'est dans le soutien que les gouvernements apportent aux entreprises. En 2008-2009, vous en rappelez, tout le monde a fait redémarrer son industrie automobile très très vite, très fort. Et pourtant, on ne va pas tous acheter 3 voitures. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ciblé. La plupart des gouvernements le font avec des conditions environnementales, ce qui est nouveau par rapport
à cette
crise-là.
Ça, c'est plutôt bien.
Et oui, parce que ça va dessiner un chemin plus vert.
Y a pas que de conditionner à l'achat d'une voiture électrique ou en tout cas plus propre, de dire à Air France, par exemple, vous fermez les lignes quand il y a un train qui peut faire le même trajet, vous dites c'est pas mal à l'OCDE.
Oui, on dit c'est bien.
C'est pas du tout libéral ça, hein.
Mais comme vous savez, l'OCDE n'est plus a fait un vrai tournant avec la crise financière, donc ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années. Pour intégrer effectivement tout ce qui est soutenabilité de la croissance. Et la soutenabilité de la croissance, elle passe par 3 piliers. L'égalité des chances, surtout, que ce soit effectivement que ça aille en faveur d'un environnement plus vert. Le 3e pilier, moi, je pense que c'est la santé. Et on vient de le voir avec l'épisode dans lequel on a...
Vous êtes en train de nous dire, d'une certaine manière, qu'à l'OCDE, qui est dans le 16e arrondissement à Paris, il y a à tous les étages, il y a des économistes atterrés, en fait, aujourd'hui. Ça n'est plus du tout le CDE qu'une partie de l'opinion en tête.
Ce n'est pas l'OCDE qui a une partie de l'opinion en tête. Je ne suis pas sûre qu'on irait jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que dans tout ce qu'on fait, on essaye d'équilibrer la croissance avec le fait qu'elle soit inclusive et soutenable. Et donc, on travaille beaucoup. D'ailleurs, on a une de nos publications phares, on fait pas que des prévisions, qui est sur ces idées de comment on fait pour trouver le bon équilibre entre une croissance forte, que tout le monde ait accès à un emploi de qualité et que en plus on respecte l'environnement. C'est pas simple.
Et c'est vrai que, enfin, il faut ajouter aussi que l'OCDE est parti en pointe sur la taxation sur les paradis fiscaux et moteur dans le monde entier sur la taxation des essayer de sortir les paradis fiscaux, de faire des listes et etc. Est-ce que vous diriez, Laurence Boone, que le modèle social français, finalement, il a quand même du bon, parce qu'il a servi un peu d'amortisseur. Il a permis à l'économie de tenir. C'était le cas un peu en 2008-2009, et c'est encore le cas. Il a quand même plus de vertus qu'on l'entend parfois.
C'est presque un modèle européen, j'allais dire, parce que le modèle de l'activité partielle, par exemple, ou du chômage partiel, c'est vraiment inspiré de ce qu'avait fait l'Allemagne pendant la crise financière. En fait, à l'OCDE, on est assez contents, parce que notre travail, c'est quand même de faire partager les expériences des uns et des autres pour qu'ils en tirent les meilleures politiques économiques. Et là, je me souviens très bien de quand on a fait des prévisions en mars en se disant... ce virus commence à exploser partout. Qu'est-ce qu'il faut qu'on recommande? Et on recommandait effectivement de gonfler les systèmes de santé, de protéger personne, notamment soit avec des systèmes de chômage partiel, soit ce que font les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui est de payer directement les salaires aux personnes qui sont mises au chômage, mais avec un lien avec leur entreprise. Et puis surtout de geler les frais fixes, en gros, des entreprises pour pas qu'elles aient de problèmes de liquidité. Et vous savez, ça marche. On calculait que en temps normal, si on n'avait pas fait ça, en 2 mois, 40% des entreprises, je parle de l'Union européenne là, auraient eu des problèmes de liquidité.
40% des entreprises auraient été à risque de disparaître un jour ou l'autre, en tout cas d'avoir des problèmes de liquidité si on n'avait rien fait.
Ouais. Et avec tout ce qu'on a fait, c'est plus que 10%.
Ah oui, et c'est effectivement une donnée qui n'a pas été publiée jusqu'à maintenant. Mais évidemment, la question derrière, c'est, ok, c'est bien gentil, mais qui paye à la fin tout ça ? C'est-à-dire qu'on voit les dettes qui s'accumulent d'une crise à l'autre. 2008, un peu plus de dettes privées publiques. 2020, un peu plus de dettes privées publiques. Ça tient ou à la fin, on est sur la ligne de crête, mais on bascule ?
Non, mais c'est une bonne question. Je pense que...
Mais on n'a pas la réponse.
Non, mais c'est une question de séquence aussi. Pour le moment, il faut absolument arriver à... La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de faire redémarrer l'économie le plus vite possible pour le plus de monde possible. Et pour ça, on a besoin d'argent public. Donc 2020-2021, il faut que les gouvernements soient vraiment en soutien de l'activité économique. Alors, il y a deux choses. La première, c'est ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut vraiment cibler là où va l'argent. C'est pour ça qu'on va demander des comptes verts ou sur les dividendes, etc. Et la deuxième chose, c'est on peut le faire parce que la situation en fait est tellement grave que les banques centrales elles-mêmes font tout pour maintenir les taux d'intérêt le plus bas possible pour qu'en fait des entreprises privées n'aient pas de problème de financement. Ce qui veut dire que les États n'ont pas non plus de problème de financement. Maintenant, dans 2022, j'espère, quand tout ira mieux, il faudra commencer
à enlever les béquilles et à revenir à quelque chose d'un peu près normal. En fait, d'une certaine manière, vous nous dites, ce sont les banques centrales, les seules institutions non élues, non démocratiques, qui font le vrai job, le meilleur job, alors que les États ont été plus ou moins pris au dépourvu.
Alors, je ne vous dis pas exactement ça. D'ailleurs, les banques centrales ont aussi bénéficié de ce qu'elles ont appris pendant la crise précédente. Les banques centrales, elles mettent des conditions de financement en place. Les gouvernements élus démocratiquement, eux, font des choix d'allocation de leur budget. Et ça, c'est quand même essentiel.
Élargissons une seconde le regard. Qu'est-ce qui va rester de la mondialisation ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est mise en cause dans cette affaire-là ou c'est pas le sujet ? Rien à voir ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ?
En fait, les crises, ça accélère des tendances. Je pense pas que c'est là créer des tendances. Et quand on parle de la mondialisation, on voit les années 90 jusqu'à la crise financière, c'est l'explosion de la mondialisation. Mais depuis, il y a quand même un ralentissement. Et on voit que les chaînes de valeur deviennent de plus en plus régionales. Et puis, on voit aussi qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait très bien. Vous prenez le cas des masques, par exemple. Il y a eu une pénurie mondiale de masques, parce que tout le monde a eu besoin de masques au même moment et qu'on n'en fabriquait pas assez de façon mondiale. Donc ça montre, la première chose, c'est qu'on a besoin de faire des stocks pour justement faire face à ça. La deuxième chose, c'est quand on regarde où sont fabriqués les équipements protecteurs médicaux, c'est très concentré dans trois pays, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne.
Donc il faut relocaliser en France ou se dire c'est en Europe que ça doit se faire et on se débrouille entre Européens.
Un peu des deux, en fait. Je pense qu'il faut diversifier les sources d'approvisionnement pour pas se retrouver coincé par un manquement dans un pays X ou Y. Et pour certains biens essentiels, importants, dont on a besoin dans des cas comme ça, c'est pas mal d'avoir une petite unité de production.
Alors,
sur
lesquels,
place,
si on fait la liste,
Europe,
et puis on va finir par
on
ça.
Se faire gonfler.
Donc, un peu de médicaments, un peu de masques, mais c'est tout.
Un peu de santé en général. Ouais. Après, il y a des questions. Il y a une question très intéressante qu'on n'aura pas le temps de débattre, mais je la mets quand même là pour qu'on en parle une prochaine fois, qui est celle de tout ce qui est Internet et sécurité Internet. La 5G, par exemple. La 5G, c'est très concentré. Il y a trois acteurs mondiaux, deux en Europe, un en Chine. L'Amérique se demande, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter un acteur 5G et probablement pas le chinois.
Laurence Boone, dans quelques instants, vous allez répondre aux questions, peut-être aux interpellations de cinq étudiants qui vous ont écouté, je crois, assez attentivement. Bon, attention, ils vont peut-être pas vous ménager. En tout cas, je ne connais pas leurs questions. C'était Janis Joplin, Move Over.
L'écho de l'été sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE. Alors, la crise économique et sociale, l'avenir de la mondialisation, voilà ce dont nous parlons. Et maintenant, comme promis, eh bien, la parole aux étudiants. Alors, qui va poser sa première question ?
Bonsoir, c'est moi, Pierre Hardy. J'ai 24 ans, je suis étudiant à Sciences Po, en master à l'école de journalisme. Et la question que je voulais vous poser porte sur les propositions qui ont été remises l'autre jour par la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez tout à l'heure parlé du confinement et des effets économiques du confinement. J'entendais l'autre jour sur TF1 le journaliste François Langlais dire que ce que voulait la Convention avec ses propositions, c'était finalement de revenir à une économie du confinement perpétuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quel regard vous portez avec l'OCDE sur les propositions qui ont été faites ?
Alors, l'économie du confinement perpétuel, j'espère que vous êtes convaincus par la discussion qu'on a eue que c'est absolument terrible, hein, pour deux raisons. La première, c'est que ça va créer beaucoup de chômage et beaucoup de souffrance, surtout chez ceux qui sont les plus vulnérables. Et la deuxième, c'est quand on regarde ce qu'ont fait les émissions pendant ce confinement, elles ont baissé de seulement 8%, ce qui, sur le stock d'émissions, est vraiment très très peu. Donc non, au contraire, je pense qu'il faut profiter de la reprise et des investissements qu'on va faire pour cette reprise, pour faire deux choses. D'abord, des infrastructures plus vertes. Et aujourd'hui, le renouvelable est pas cher du tout, beaucoup moins cher qu'avant. Donc, il faut y aller. Il faut faire de la recherche aussi pour continuer, pour faire qu'en fait, la production soit plus en ligne avec la consommation, puisque vous savez que la production de renouvelables n'est pas stockable. Donc, il faut qu'on arrive à faire matcher les deux. Et ça passe par du numérique. Et la troisième chose, je pense, qui est vraiment très importante, c'est qu'il faut former les personnes justement pour qu'elles puissent travailler dans les secteurs de l'énergie verte.
Mais j'ai envie de vous poser une question toute simple. Le 110 km/h, il faut le faire ou il ne faut pas le faire, vu de l'OCDE ? Est-ce que c'est un signal intéressant et important ?
Alors, l'OCDE travaille par consensus avec ses pays et je vous avoue qu'on ne s'est pas penché sur le 110 km/h.
Il faudra le faire. Autre question.
Bonsoir, Sophia Garmi, j'ai 24 ans, je suis étudiante en géopolitique et prospective en management à l'IRISUP, à Grenoble École de Management. Vous avez tout à l'heure parlé d'égalité des chances dans la relance de la croissance. Ça me fait naturellement penser aux pays émergents et aux pays en développement qui sont les plus vulnérables tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. On se félicite d'avoir des moratoires sur la dette ou le service de la dette. Est-ce que c'est suffisant? Et surtout, si on ne fait pas plus, est-ce qu'on ne va pas vers un cataclysme encore plus important qu'actuellement?
Laurence Boone vous répond.
Alors, c'est une très bonne question. En fait, cette crise, elle est assez terrible parce qu'elle augmente les inégalités dans plein de dimensions et entre autres entre les pays avancés et les pays émergents. C'est beaucoup plus difficile pour nombre de pays émergents de traiter la pandémie. D'abord parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes de santé. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs informels. Et les travailleurs informels, on ne peut pas les confiner. Ils se lèvent le matin pour aller travailler dans la journée pour pouvoir dîner le soir. Et on n'a pas les mêmes systèmes de protection sociale que dans les pays avancés. Donc pour ça, on a besoin de la coopération internationale, comme on en aura besoin pour la distribution du vaccin. En plus, ils ont été affectés par la baisse des prix de matières premières, dont ils sont généralement producteurs. Et le dernier point, c'est qu'on a vu, et ça a été très spectaculaire, une sortie des capitaux qui étaient investis par les investisseurs des pays avancés chez les pays émergents, très brutale et massive au mois de mars, au moment où la pandémie s'est vraiment répandue de façon importante. Donc oui, ça nous inquiète. C'est très encourageant de voir que le G20 s'est mobilisé pour le moratoire sur le service de la dette, que la Chine, pour la première fois dans l'histoire, est allée avec le Club de Paris contribuer à ce moratoire. Maintenant, il faut que les acteurs du secteur privé viennent aussi contribuer à cet allègement. On en a besoin.
Est-ce que la réponse vous satisfait ? Vous voulez un compliment, peut-être ?
Je ne sais pas si c'est assez, mais en tout cas, ça donne des pistes. Et effectivement, le secteur privé me paraît être une bonne piste.
Mais c'est vrai que depuis 30 ans, on a vu l'extrême pauvreté, une réduction spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est un des grands bénéfices de la mondialisation qu'on oublie souvent dans les pays occidentaux et notamment en France. Mais est-ce qu'on va repartir quelques années en arrière avec ce qui se passe? Ou bon, ça va être un mauvais moment, mais si un vaccin est trouvé, et on a quand même bon espoir qu'un jour un vaccin sera trouvé, voilà, les pays émergents repartiront de l'avant.
Alors, Il y a deux questions, en fait. La première, c'est que je pense qu'on est tous tellement intégrés que pour beaucoup de biens et de services, on va rester comme non essentiel ou considéré comme non essentiel. Cette intégration va rester, effectivement. Quand on parle de rapatrier des chaînes de production, c'est pas tout. Et par ailleurs, la régionalisation, d'une certaine façon, elle fait déjà ça. Par exemple, le nombre de textiles sont fabriqués de l'autre côté de la Méditerranée pour nous et parce qu'on en
change. Oui, vous croyez plus à la régionalisation qu'à la démondialisation.
Ça me paraît plus probable, bien qu'il y ait des éléments, oui, bien qu'il y ait des éléments dont on a besoin pour certaines productions qu'on va trouver que dans un pays ou dans un autre. Mais c'est vrai. En revanche, qu'il va falloir faire un très gros effort, je pense, de coopération internationale pour s'assurer que ce fameux vaccin, si quand on le trouve, il soit distribué partout. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon. Donc, il faut y aller.
Allez, troisième question.
Bonjour, je m'appelle Raphaël Grandot et je suis jeune ingénieur de l'École des mines de Paris. Vous parlez de régionalisation des chaînes de valeur. Est-ce que cette régionalisation, elle peut accélérer la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, par exemple, et est-ce qu'il faudrait l'accompagner par une aide à la relocalisation de l'industrie ?
Ah, c'est une très bonne question, ça, Laurence Beune.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que quand on parle de taxe carbone aux frontières, ça suppose qu'on a réussi à faire une taxe carbone à l'intérieur de nos frontières, ce qui est quand même pas évident, comme les épisodes récents l'ont montré. Pourquoi ? Parce que la taxe carbone, bien qu'elle soit nécessaire, tous les économistes le diront, pour changer les comportements, pour orienter les personnes loin du carbone et vers d'autres énergies plus propres, elle a un coût à la fois pour les entreprises et en général ce sont les petites entreprises qui vont trouver que le coût est plus élevé et pour les personnes les plus qui pour le coup ont besoin de leur voiture parce qu'elles habitent dans des endroits souvent distants de leur lieu de travail et donc il faut penser à comment on fait pour commencer. Donc il y a tout un volant.
Ah oui, si on met une taxe carbone autour des frontières de l'Union européenne, en fait, on risque d'avoir 446 millions de gilets jaunes. C'est ça, en fait.
C'est pas exactement ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'elle fait du sens à partir du moment où on a réussi à la faire à l'intérieur de l'Union européenne.
C'est une bonne idée de le faire.
De faire une taxe, un prix du carbone à l'intérieur de l'Union européenne.
Et aux frontières.
C'est une bonne idée pour changer les comportements. Ça ne peut pas se faire comme on a essayé de le faire dans le passé. D'accord. Il faut qu'on étudie et qu'on comprenne comment le faire accepter par les personnes. Pour ça, par exemple, une piste, c'est, on voit dans les études que la plupart des personnes sont plus enclines à accepter une taxe carbone quand elles voient que l'argent qu'on en retire va directement dans des investissements en infrastructures vertes ou dans des formations pour les emplois en infrastructures vertes. Donc, il y a une réflexion là-dessus qu'on n'a pas fait assez. Par ailleurs, la Convention citoyenne, il me semble, ne parle absolument pas de ça.
Qui est séduisante de se dire, en Chine, ils utilisent des centrales à charbon. Et donc il dégage beaucoup de CO2. On installe une sorte de cercle sanitaire autour de l'Europe, ça renchérit un peu les produits, mais au total, tout le monde est gagnant.
Mais en fait, c'est compliqué parce que d'abord, ça demande aussi... je ne dis pas que je suis contre, j'explique que c'est compliqué. Ça demande de pouvoir mesurer l'empreinte carbone de chaque chose qui est fabriquée. Or, dans une chaîne de production compliquée, dont on a du mal à identifier où il faut aller sourcer les différents produits, ça veut dire que c'est pas simple de faire ça. La deuxième chose, c'est que on a des règles d'échanges commerciaux internationaux qui disent qu'il ne faut ni favoriser ces entreprises indûment pour pas effectivement donner un avantage qui serait public. Et qui n'aurait pas à voir avec la qualité des produits ou avec l'innovation qui est dans ces produits. Or, comme vous le savez, depuis récemment, on a quand même bon nombre de tensions commerciales, en particulier parce que certains gouvernements subventionnent leurs entreprises. Donc il faut qu'on arrive, si on pense que c'est une bonne idée, à faire quelque chose qui soit en plus respectueux des règles d'échange commercial.
Ah oui, c'est pas demain la veille. Hein.
Ça demande une petite réflexion.
Ouais. Allez, une autre question.
Bonsoir, c'est Kina, je reste en droit social et étudiante à la Sorbonne. Vous avez parlé de populations vulnérables et moi je m'intéresse notamment aux jeunes travailleurs à travers le monde. Dans son dernier rapport, l'OIT, donc l'Organisation Internationale du Travail, soulignait que près de la moitié des jeunes travailleurs étaient issus de secteurs qui étaient très défavorisés à la suite de la Covid-19 et que près déjà de 1 jeune sur 5 était sans formation ni emploi. Qu'est-ce que l'OCDE, ou même selon vous, vous préconisez pour ces jeunes générations en termes de politique publique ?
On pourrait parler pendant 3 heures, je pense, mais de tout ça. Mais c'est vrai que dans cette crise, d'abord, les jeunes souffrent, surtout quand ils arrivent sur le marché du travail, toujours plus de la crise parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils doivent chercher un emploi et que c'est plus compliqué quand on est en train d'en détruire plus que ce qu'on construit. Mais là, c'est en particulier le cas parce que les secteurs les plus touchés emploient le plus de personnes peu qualifiées et qui ont déjà en temps ordinaire du mal à trouver du travail et emploient plus de jeunes et que ces contrats sont pas stables. Donc le chômage temporaire c'est bien, mais pour ça il faut avoir un CDI dans la plupart des pays. Donc effectivement c'est le groupe le plus touché. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord étendre le filet de sécurité sociale au-delà du CDI classique, ce que beaucoup de pays ont fait, franchement, et de façon spectaculaire. Il faut qu'ils couvrent aussi tous ceux qui sont auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs dans les secteurs qui sont les plus touchés. Et pour les jeunes, d'abord, la première chose, c'est la formation. Je pense qu'on ne dira jamais assez que l'éducation, c'est la clé pour avoir un job de bonne qualité. Il faut absolument se former. Et ça vaut à la fois pour les jeunes qui sont en fin d'université, qui souvent font une formation complémentaire quand on arrive en crise. Et il y a des gouvernements qui pensent à effectivement aider au financement de ces formations supplémentaires pour pas que les jeunes arrivent sur le marché du travail. Et aussi beaucoup l'apprentissage. Alors, personne à la radio ne le voit, mais la jeune fille me regarde avec des grands yeux. Elle veut poser une autre question. Je m'arrête.
Justement, est-ce que vous pensez aux filières de reconversion dans les filières prometteuses, dans le sens de reconversion des emplois dans le bâtiment ou encore pour tout ce qui est refonte énergétique ou encore même dans les industries vertes où aujourd'hui c'est des secteurs à fort taux d'emploi.
Vous dites aussi que votre génération risque d'être sacrifiée et vous dites vous n'avez pas tellement envie de ça quand même.
Exactement.
On sent un peu d'énervement.
Elle n'a pas dit ça, mais on parle de formation. Formation, oui, mais je parlais alors à la fois des jeunes qui arrivent effectivement en fin de diplôme élevé, mais par ailleurs, toutes les personnes qui sont en l'emploi. On a un travers en France qui est que la formation bénéficie généralement aux personnes qualifiées en l'emploi, beaucoup moins aux chômeurs et beaucoup moins aux personnes peu qualifiées. Donc il y a un vrai chantier à continuer d'améliorer la formation qui est dispensée aux personnes qui sont soit au chômage, soit dans des entreprises qui risquent de fonctionner à 10% de ce qu'elle, ou 15% de ce qu'elles fonctionnaient avant pour aller travailler ailleurs. Ce que font, là on parle toujours du Danemark, mais j'ai envie de dire la Suède fait ça encore mieux.
Toujours l'Europe du Nord, ce qui reste un modèle, malgré tout, à vos yeux. Dernière question.
Bonsoir, Arnaud Hors, étudiant à Sciences Po. Vous parliez tout à l'heure de l'action des banques centrales et des liquidités dans le système économique. Comment peut-on s'assurer que celles-ci aillent véritablement dans les entreprises qui en ont besoin et qu'elles n'alimentent pas des bulles, que ce soit immobilières ou financières ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux acteurs essentiels de politique économique quand on a une crise comme ça avec un ralentissement très très fort. Il y a l'État et qui fait un tas de choses pour lesquelles il doit payer, donc c'est son outil budgétaire. Et puis il y a les banques centrales dont la fonction principale, elle est deux, est de s'assurer d'une part que les entreprises qui ont besoin de liquidités y ont accès, parce qu'on l'a vu, si elles n'ont pas de liquidités, elles font faillite. Et d'autre part que les marchés financiers et les banques fonctionnent correctement, parce que si vous n'avez plus de banque, il n'y a plus le liquide qui permet d'alimenter le fonctionnement de l'économie. Elles l'ont fait. Elles ont mis à disposition vraiment des masses de liquidités. Mais les banques centrales, elles sont indépendantes. Elles sont gérées par des hauts fonctionnaires, technocrates, ultra qualifiés, absolument pas élus démocratiquement. Si elles faisaient autre chose que de mettre la liquidité à disposition des banques ou bien des États quand pour ceux où le besoin est là, par l'intermédiaire de taux d'intérêt, pas directement évidemment, elles prendraient des positions sur pourquoi est-ce qu'elles iraient investir dans l'automobile plutôt que dans l'énergie. Pourquoi est-ce qu'elles iraient investir? Ça, c'est des choix de société d'allocation de ressources qu'une banque centrale ne peut pas et ne doit pas faire.
Je vais vous poser, ça fait longtemps que je ne suis plus étudiant, hein, mais je vais vous poser une dernière question. Ce qui frappe, c'est gentil, ce qui frappe quand même, quand on regarde la gestion de la crise par des pays qui sont gouvernés par des femmes, Angela Merkel, alors c'est une question évidemment qu'on va me reprocher sur les réseaux sociaux, hein, j'assume, mais Angela Merkel, ça s'est plutôt passé bien, elle n'a jamais été aussi populaire, c'est incroyable. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a un succès absolument phénoménal. Alors son truc, elle, c'est l'empathie. Est-ce qu'il y a une gestion féminine de cette crise de la santé ou pas?
Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai, j'imagine que vous avez vu la vidéo de 2 minutes où la première ministre de Nouvelle-Zélande explique tout ce qu'elle a fait en 2 ans. C'est fascinant, c'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire, ce sont des personnes très compétentes. Et le jour où vous me demanderez si ces personnes-là sont plus compétentes que les autres, c'est qu'il n'y aura plus besoin il n'y aura plus de questions de féminisme, ce sera acquis.
Merci beaucoup Laurence Boone, c'est presque la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup et je remercie les étudiants. Et si on écoutait pour finir Alain Souchon, le titre « Un terrain en pente », les paroles « Je vois des usines qu'on vend et des hommes qui pleurent », des hommes et des femmes, j'ai bien entendu Laurence Boone, ce sont des paroles évidemment dont on espère qu'elles seront démenties.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir quand la ville s'allume. Je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine. Et des dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances.
La semaine prochaine, nous recevrons Emmanuel Faber, le patron de Danone, un grand groupe industriel de plein pied dans la mondialisation et l'économie de marché, plus de 100 000 salariés, mais qui pense sérieusement que cette crise est aussi et d'abord une occasion unique de changer. Merci à Rachid Zourdani, Vera Louderit pour la préparation de l'émission, à Julien Dumont à la technique, Hélène Bizio à la réalisation, et puis aussi à l'École de journalisme de Sciences Po et au Cercle des économistes pour nous avoir mis en contact avec nos étudiants de ce jour.